baby away, I can tell you. 'Cause with every day things continue.
À quoi rêve la jeunesse et quel regard porte-t-elle sur notre société et sur le monde? Du 12 au 18 janvier, Radio Aligre fête ses 45 ans en ouvrant ses micros à celles et ceux qui inventeront demain. Avoir 20 ans en 2026, c'est sur Radio Aligre. Soyez au rendez-vous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM 93.1, Nadia et Taïeb au micro pour une émission spéciale à avoir 20 ans en 2026. Vous le savez, tout au long de cette semaine, nous donnons le micro à la jeunesse. Alors avoir 20 ans en 2026, c'est aussi aborder l'âge adulte dans un monde en crise, crise climatique, sociale, économique, démocratique. C'est l'âge des premiers choix, des premières responsabilités, mais aussi celui des premières désillusions. Et parmi elles, le désenchantement à l'égard du politique. Quelle place notre société réserve-t-elle à la génération Z? Quels droits, quels espoirs, quels leviers d'action pour celles et ceux qui inventeront demain? Répondre à ces questions, c'est aussi ne pas attendre qu'on vous donne une place, mais la prendre en prenant conscience que chaque voix compte. Victoire populaire est un mouvement né en 2021 sous le nom de primaire populaire. L'objectif avoué est alors clair, rassembler les citoyens autour d'une initiative inédite destinée à favoriser l'union de la gauche. Devenu Victoire populaire, ce mouvement est aujourd'hui un mouvement citoyen durable, ancré sur le terrain, qui travaille pour promouvoir la justice sociale, l'écologie et la démocratie. Dans son sillage, Jeunesse Populaire, lancée il y a un an, vise à donner une place centrale aux jeunes des quartiers populaires dans les combats sociaux, écologiques et démocratiques. Penser autrement la place de la jeunesse dans la politique, c'est affirmer que la jeunesse n'a pas dit son dernier mot. Et si en 1984, la jeunesse emmerdait le Front National, aujourd'hui, elle ne se contente plus de l'emmerder, hein, même si c'est devenu un slogan de manifestation, elle la combat activement. Emmanuel Berthoud, bonjour.
Bonjour Nadia.
Vous êtes membre du conseil d'administration de Victoire Populaire, que j'ai introduit rapidement dans mon édito. On aura l'occasion de revenir sur la chronologie de ce mouvement et les grandes étapes de sa constitution. Cheryl Enjo est avec nous également dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Nadia.
Vous êtes responsable, vous, du pôle local de jeunesse populaire, un mouvement né dans le sillage donc des victoires populaires et qui œuvre dans les quartiers populaires, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors, vous êtes étudiante en droit, vous avez 20 ans. Emmanuel, vous avez 27 ans, un peu plus âgé, et vous êtes agent de la fonction publique. J'ai envie d'abord de commencer par une première question sur vous en tant que femme et citoyenne. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à cet engagement? On commence par vous, Cheryl Enjo.
Alors moi, je n'étais pas du tout prédestinée à m'engager en politique, mais les législatives de 2024, ça a été un électrochoc pour moi qui m'a poussée à m'engager. Il y a la jeunesse populaire qui s'est formée à ce moment-là. C'était un mouvement qui me correspondait au vu de l'endroit d'où je venais. Donc, je me suis engagée dans ce sens avec la jeunesse populaire pour essayer de changer les choses à mon niveau. Et puis, j'y suis depuis 2024.
Et vous dites que ça me semblait cohérent au vu de l'endroit d'où je venais. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur l'endroit où vous avez grandi?
Moi, j'ai grandi dans le 94, dans un quartier populaire dans lequel je vis toujours actuellement. J'ai une famille modeste et c'est des enjeux qui touchent un peu à toute mon existence, ce qu'on défend à la jeunesse populaire. Donc ça faisait sens et ça fait toujours sens aujourd'hui.
Et c'est intéressant d'avoir votre regard ancré dans les quartiers populaires parce qu'il y a beaucoup de représentations sur ces quartiers, beaucoup de raccourcis, beaucoup de généralisations. Et je pense que l'un des intérêts du mouvement que vous représentez aujourd'hui, c'est aussi de lutter contre ces représentations.
C'est ça, lutter contre ces représentations, lutter aussi contre l'instrumentalisation de la jeunesse populaire. La jeunesse populaire comme faire valoir, la jeunesse populaire pour faire barrage à l'extrême droite. On lutte aussi contre tout ça, on veut montrer qu'on compte, même en dehors de ce contexte précis dans lequel on nous sollicite constamment. On veut se faire entendre, même en dehors des périodes de crise, et c'est un peu ce qui nous anime.
C'est ça, ne pas renouveler, renforcer la marginalisation des quartiers populaires en créant un mouvement spécifique qui serait coupé des autres mouvements. Et c'est bien pour ça que ce mouvement est en lien avec Victoire Populaire que vous représentez dans ces studios, Emmanuel Berthoud. Alors, même question, comment en êtes-vous arrivé à cet engagement citoyen? Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a été déterminant, dans vos rencontres peut-être?
Merci beaucoup déjà de nous avoir invités, je suis ravie d'être là. Pour ma part, l'engagement, il a commencé pas du tout à travers un engagement politique à proprement parler, à vrai dire. C'était plus un engagement de quartier. J'avais envie d'être utile près de chez moi. Et j'ai commencé à être écrivain public dans une petite asso qui aidait en fait principalement les personnes exilées. Et c'était au moment de la présidentielle de 2022. Et en parallèle, je menais des travaux de recherche sur les groupuscules d'ultra-droite, donc les groupes violents qui défendent des idées d'extrême droite en dehors des urnes. Et à ce moment-là, un peu par hasard, dans mes travaux, je rencontre Florène Julien, qui est par ailleurs avec moi chez Victoire Populaire, et qui m'invite à un événement d'une autre association qui s'appelle le Labo des Partis, où différents mouvements de la société civile, comme on les appelle, sont rassemblés pour trouver des solutions à ce qu'ils estiment être une forme de crise des partis, ou en tout cas une crise de la capacité d'agir ou de convaincre des partis. Et donc, ils proposaient une analyse du fonctionnement des partis politiques pour identifier des pistes pour que ça marche, quoi. Et donc, je commence en fait à militer et à travailler avec eux sur cette analyse du fonctionnement des partis politiques. Et là, je découvre un monde de « Oula, il y a des citoyens qui s'engagent en dehors de ces espèces de choses poussiéreuses que sont les partis politiques. » Et donc là, on est en mars 24. Et en fait, les législatives arrivent. Et là, bim bam boum, l'espace d'engagement le plus pertinent pour moi, ça devient Victoire Populaire. Et donc je me retrouve à faire partie de l'équipe de coordination du phoning, parce que, mais on y reviendra sûrement, oui. C'est un des modes d'action de Victoire Populaire. Et donc voilà, l'aventure commence pour moi dans l'engagement citoyen politique, mais ce n'était pas du tout comme ça que je l'avais envisagé au départ, quoi.
Vous parlez de parti poussiéreux. C'est un constat que vous partagez, Cheryl Enjo?
Complètement. Complètement, je trouve que c'est un modèle qui fonctionne pas ou plus, que c'est épuisé, ça fonctionne pas forcément, que ça rebute pas mal, il y a un manque de représentativité, on s'y retrouve pas toujours. Et puis la plupart des partis, sans citer le côté, viennent souvent nous chercher encore une fois pour faire des voix, pour se faire élire. C'est un peu du clientélisme et nous, on s'y retrouve plus, quoi.
Alors, ça veut dire finalement prendre son destin en main à travers un engagement citoyen et un engagement citoyen qui est vraiment ancré sur des réalités locales, dans des réalités locales et qui passe par des rencontres sur les différents territoires. Les deux associations que vous incarnez ont un maillage territorial impressionnant. Pourquoi c'est important ça pour renouveler justement le politique et la démocratie, Emmanuel Berthoud?
Alors nous, chez Victoire Populaire, peut-être l'un de nos principaux principes d'action, c'est qu'on considère que c'est par la conversation qu'on va convaincre, et non pas par des tracts, uniquement des discours éloignés du terrain. Donc pour nous, le travail qui est mené par les groupes locaux, on en a 25 aujourd'hui, mais tout comme le travail qui est mené par les phoneurs, hein, qui appellent aussi au local, c'est un travail essentiel parce que on est convaincu que c'est en allant parler aux gens qu'on va renouer de la confiance envers les personnes qui nous représentent ou qui sont amenées à nous représenter. Donc c'est pour ça que pour nous, le terrain, il est essentiel. On a envie d'être le plus possible au contact des gens, notamment sur les territoires où peut-être l'abstention est la plus forte, où la désillusion est aussi la plus forte à l'endroit des formes d'engagement politique. Et voilà ce que je peux dire sur l'importance du terrain pour nous. Mais c'est encore quelque chose qu'on aimerait développer davantage, en fait. Comme vous le disiez tout à l'heure, Victoire Populaire reste un mouvement finalement assez récent. Hein. Ouais. Donc le développement des groupes locaux, c'est un axe majeur pour nous, quoi.
Cheryl Enjo, l'ancrage, la rencontre avec les jeunes et les gens des quartiers populaires, c'est aussi le ressort essentiel des jeunesses populaires.
Oui, bien sûr, sans ancrage, on peut rien faire, et surtout la lutte pour l'engagement, et même toute lutte, je pense que rien ne se fait seul, et le collectif permet d'élever ses voix toujours plus haut et toujours plus fort. Donc on tient à cœur d'avoir des jeunes sur le terrain qui sont engagés avec nous et qui nous permettent de toucher un maximum de personnes. Aujourd'hui, on a des jeunes aussi dans la France périphérique qui vivent dans des endroits qui sont totalement différents de ceux dans lesquels nous, on a évolué, et on est en lien avec eux parce que c'est important aussi de prendre les réalités de ces personnes-là qui vivent pas forcément dans les mêmes conditions que nous et qui sont pourtant confrontées à des problématiques qui sont malheureuses et dont on entend très peu parler. Et voilà, l'ancrage est très important aussi et essentiel chez nous.
Quels endroits périphériques, on peut en citer quelques-uns en particulier?
On a quelques villages dont moi, je n'ai pas forcément le nom, mais on a des jeunes qui sont dans des villages et qui nous parlent de problématiques assez, assez complexes, du racisme, mais pas que, le manque de services publics, il n'y a pas beaucoup d'associations, pas beaucoup d'activités, les écoles, elles sont très loin, ils sont obligés de se déraciner, de quitter l'endroit d'où ils ont grandi pour pouvoir étudier. Le manque d'argent, c'est difficile. On n'a pas forcément tous les moyens d'aller faire des études à des centaines de kilomètres de chez soi. Et oui, on en a plusieurs, quelques-uns dans plusieurs villages un peu dispersés dans la France avec qui on est en lien. Et pour l'instant, on n'a pas pu encore mener d'action avec eux parce que ça s'organise, parce que nous, on n'est pas subventionnés. Quand on le fait, c'est toujours à nos frais. Mais on essaye de faire ce qu'on peut à cette échelle.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et quels sont les modes d'action que vous proposez, notamment à ces jeunes isolés dans des communes lointaines?
C'est difficile de leur proposer des modes d'action puisqu'ils sont assez seuls. C'est pas comme si on en avait plusieurs, par exemple, dans le même village, vu qu'ils sont assez seuls dans ces endroits-là, c'est pas simple de les aider. de les accompagner, de les soutenir. Par contre, on a pour projet de mener des actions aussi dans ces endroits-là, des débats, d'organiser des ciné-débats aussi, de se montrer présent sur le terrain pour qu'il y ait des mouvements aussi qui s'ancrent à l'échelle locale dans des petites communes.
Ce que vous faites déjà dans des quartiers dits populaires,
hein,
ciné-débats, rencontres, est-ce que vous vous heurtez à une forme de désenchantement, de résistance, ou bien est-ce que vous sentez un intérêt marqué, peut-être de plus en plus marqué pour ces actions?
Alors, jamais de désenchantement ou de, parfois du désintérêt, pas forcément pour nous, mais il y a cette forme de déviance et ce sentiment de d'être abandonné par la politique et donc d'abandonner la politique soi-même. Après, on discute, on débat, on peut en parler, et c'est un sentiment qui peut être légitime aussi de se dire bah, je me sens pas... Je ne me sens pas représentée, je n'ai pas l'impression que ma voix soit prise en compte, donc je n'ai pas forcément envie de m'engager. C'est audible, mais ça nous arrive de se heurter aussi à des jeunes qui n'ont pas forcément envie de s'engager, qui s'engagent par exemple localement, qui font en sorte de lutter contre la précarité, qui ont des associations de terrain, mais qui sont très éloignés de la politique parce qu'ils n'ont pas l'impression que ça change, qu'on s'y engage ou pas.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du manque d'engagement politique des jeunes. Chiffres à l'appui, c'est réel, mais en même temps, ce sont des chiffres qui souvent négligent d'autres formes d'engagement qui sont importantes, par exemple le boycott, 23% des jeunes entre 20 et 35 ans ont pratiqué des boycotts de produits d'entreprise plusieurs fois dans leur existence. La manifestation aussi, 18%, 14% ont fait déjà grève une fois, 11% ont pris part à un blocage. Ça, ce sont des formes d'action que vous prenez en compte, Emmanuel Berthoud, à Victoire Populaire, dans les modes d'action que vous mettez en place?
Bien sûr. En fait, chez Victoire Populaire, il y a vraiment deux niveaux d'engagement. Un premier niveau qui est celui de la quête de victoire électorale. Et donc là, on va se mobiliser avec nos partenaires et avec nos groupes locaux pour faire en sorte que soient élus des candidats et des candidates qui pourront porter nos idées au pouvoir. Donc c'est vraiment notre cheval de bataille. Mais en même temps, on a aussi envie d'avoir une place et une utilité dans l'écosystème plus global. Et donc là, donner de l'écho à des campagnes d'interpellation d'élus. On l'a fait notamment pour la taxe Zucman, on l'a fait pour la Palestine. On le fait dès qu'on peut le faire, en fait. On pense que c'est hyper important. Et puis, comme vous le disiez, en fait, on a tendance à réduire parfois le politique à l'acte de voter. Mais en fait, le vote intervient de manière très éparse et très irrégulière, parfois, quand il y a des campagnes inattendues comme ces derniers temps. Mais donc, il y a plein d'autres modes d'action politique en dehors de ça. Et donc, moi, je ne crois pas du tout que la jeunesse soit dépolitisée, bien au contraire. Je pense qu'elle est extrêmement politisée, mais qu'elle a besoin d'espaces qui lui conviennent et qui lui ressemblent pour s'engager. Et c'est aussi pour ça que nous, chez Victoire Populaire, on essaye de penser des modes d'action différents, de renouveler les visages, de donner espoir en autre chose qu'en une seule manière de s'engager politiquement. Parce que les jeunes, certes, ils s'abstiennent, mais on est convaincus que s'ils votaient, beaucoup voteraient pour les idées qu'on veut voir au pouvoir.
Alors, vous parlez du vote, c'est un vaste sujet. Il y a eu un tournant, on l'a entendu dans vos deux discours, c'est 2024, la dissolution de l'Assemblée et les législatives anticipées. On a noté à ce moment-là un bond extraordinaire du vote de la population entre 20 et 30 ans, qui est passé à 66,7%, ce qui est un chiffre jamais atteint depuis les années 90, je crois. Comment expliquez-vous ce sursaut? Est-ce que vos actions ont pu y contribuer, Emmanuel Berthoud, pour Victoire Populaire?
Je pense qu'il y a quand même une explication un peu macro qui est la crainte de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national.
Mmh.
Ça a quand même été un catalyseur d'engagement et de prise de conscience pour tout le monde, que c'était possible en fait. Et qu'il y a un moment, il fallait aussi sortir pour certains et certaines de sa réserve. Et par exemple, il y a plein d'artistes qui l'ont fait, et je pense que ça a aussi contribué, artistes, influenceurs, influenceuses, à faire en sorte que des jeunes qui parfois n'étaient pas touchés par des discours politiques puissent l'être et donc aillent voter. Je pense que ça, il faut aussi rendre au contexte son pouvoir d'influence. Après, nous, chez Victoire Populaire, c'est vrai qu'on s'est, donné. À l'époque, on n'avait personne qui était rémunéré chez nous. Du jour au lendemain, bam, tous les groupes locaux se réactivent. On monte une plateforme de procuration qui a été accepté par les partis. Enfin, on a géré cette plateforme de procuration-là. On a mis en place une campagne de phoning phénoménale où on a passé 300 000 appels. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites avec les partenaires, les convois de la victoire, je crois que ça s'appelait, je ne sais plus. Il y a tout, enfin, vraiment un mouvement global des associations qui se sont mobilisées, qui était absolument phénoménal. Et donc, je pense que ça a fait que des jeunes et même plus largement des personnes qui n'étaient pas touchées par ces enjeux-là l'ont été à ce moment-là.
Et vous avez eu le sentiment d'avoir une visibilité sur ces actions dans les médias mainstream ?
Je ne saurais pas vous dire, mais en même temps... J'ai envie de dire que non, mais en même temps, j'en sais rien, parce que j'étais tellement toute la journée dans la campagne que je ne regardais pas ce qui se passait par ailleurs. Mais non, bah, à l'évidence, quand dans l'entre-deux-tours, on entend « c'est Jordan qui arrive à Matignon », bah non, et qu'une semaine après, on se rend compte que la vague, elle est pour nous. Il y avait quand même un décalage entre, en tout cas, nous, notre conviction, on était certains qu'on pouvait y arriver. On ne le retrouvait pas forcément dans les médias, mais nous, on en était sûrs. Et la preuve, c'est que ça a payé.
Cheryl Enjo, pour Jeunesse Populaire, et pour vous à titre personnel aussi, 2024, c'est vraiment un tournant ?
2024, c'est un gros tournant, je trouve. Déjà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. C'est une victoire, mais pas vraiment. Moi, je suis assez pragmatique, généralement. On a quand même réussi à mobiliser des jeunes. On a été sur le terrain, on a parlé avec les gens, on a fait en sorte qu'ils puissent... y croire. Il y en a qui n'y croyaient plus du tout et qui se sont dit bah, pourquoi pas, peut-être que cette fois-ci ça va fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un déni démocratique énorme et en fait j'ai l'impression que certes il y a des jeunes qui se sont mobilisés, mais je pense que ça en a dégoûté d'autres aussi. Et ça c'est aussi important de le dire. Aujourd'hui je trouve que la jeunesse est un peu lassée, je ne vais pas dire toute la jeunesse, mais on est un peu lassé de ce truc-là. Notamment nous dans les quartiers populaires, je pense qu'on a fait un gros travail dans des endroits où le taux d'abstentionnisme était très élevé, où la jeunesse n'y croit plus depuis longtemps parce qu'elle se sent totalement abandonnée. Et avec les législatives, on a réussi à ramener un peu d'espoir. On s'est dit, là on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir construire un truc, on est peut-être sur la bonne voie de changer un peu les choses. Et c'est retombé comme un soufflet. C'est retombé comme un soufflet, mais même nous, par rapport aux jeunes qu'on accompagne, on s'est rendu compte quand même que l'engagement... C'est pas qu'il y avait plus d'engagement, parce qu'on parle quand même de jeunes qui sont engagés. En fait, la politique, quand on vient de quartier populaire, elle est ancrée en nous, parce qu'on est confronté à des problématiques qui sont intrinsèquement politiques. Donc, même si on n'est pas engagé, on vit la politique, on subit la politique d'une manière ou d'une autre. Mais il y a ce truc de se dire, après tout ça, ouais, mais on l'a fait, on a bougé tout le monde, on est parti voir tout le monde, et finalement, qu'est-ce que ça a changé ? On est un an plus tard, le RN est toujours aux portes du pouvoir, et on sait pas où on va. On ne sait pas quoi faire, ça menace de dissolution tous les quatre matins, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a les municipales aussi, c'est aussi un enjeu complexe. Donc oui, c'est une victoire, mais en même temps, c'est à regarder avec un peu de pragmatisme, je pense.
Alors, vous avez anticipé sur ma question suivante, effectivement. Emmanuel Berthoud, pour vous aussi, les suites de cette élection sont un peu un nouvel obstacle à réfléchir pour contourner finalement aussi les limites du vote, parce que voter, c'est juste déposer un bulletin dans l'urne, c'est beaucoup, mais c'est déléguer son pouvoir. Et est-ce qu'il y a une réflexion au sein de Victoire Populaire sur les outils, les moyens à mettre en place pour garder un pouvoir sur son vote ?
Complexe question. Non, déjà, commencer par dire que je partage le constat qui est posé par Cheryl. Hein. Il y a une forme de désillusion massive vis-à-vis des résultats des urnes. Après, et d'ailleurs, au-delà des jeunes, hein, nous, on a fait on est constamment en porte-à-porte aussi avec... on vient de finir une campagne qui s'appelle Chaque Voix Compte, où on a des groupes locaux qui sont allés parler aux gens à travers tout le territoire. Ça remonte beaucoup, en fait, cette question de « mais à quoi ça sert ? Pourquoi on vote ?» Maintenant, moi, à titre personnel, je suis aussi convaincue que les conséquences, la non-prise en compte des résultats du vote, après, bon, d'aucuns diront que la Constitution n'exige pas que... Enfin voilà, il y a toujours des gens qui ont trouvé des justifications pour expliquer qu'on ne mette pas Lucie Castet à Matignon. Mais moi, je suis assez convaincue que ça montre aussi les défaillances sur le plan institutionnel du système. Et ça, il y a un moment, c'est aussi des arguments qu'on peut mettre en place pour aller convaincre les gens que c'est aussi le moment de se mobiliser. Là, on est sur une course de fond, en fait. C'est évidemment qu'on n'aura pas des victoires à chaque fois, mais en fait, on a des petites victoires qui nous amènent, en tout cas, moi, c'est ma conviction, de plus en plus proches de ce qu'on veut atteindre. Après, sur ce que vous disiez, par rapport aux réflexions qu'on mène ou non sur l'évolution de la participation des citoyens en dehors des urnes, victoire populaire n'a pas vraiment dans son périmètre cette question-là. Après, on est en lien avec des acteurs qui réfléchissent aux autres modes de participation. Je pense, par exemple, au niveau de la Commune de Paris, on travaille beaucoup avec un collectif qui s'appelle Paris Collectif, qui a mené un travail énorme de collecte des doléances, si on peut dire, des citoyens, qui a fait énormément de réunions publiques pour recenser les besoins, les envies, les demandes des citoyens en amont des municipales là, qui vont arriver. Ça, c'est des initiatives qu'on soutient, qu'on pense cruciales, en fait, parce qu'il faut que la voix des citoyennes et des citoyens soit entendue en dehors des périodes électorales. Et mon espoir, et notre espoir aussi avec Victoire Populaire, c'est qu'une fois qu'on aura réussi à faire élire des candidats et des candidates de gauche, d'une gauche de rupture, on pourra mettre en place ces nouveaux dispositifs-là. On pourra mettre en place des nouvelles formes de participation à différents échelons qui donneront plus de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens en dehors des périodes électorales.
On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur Aligre FM 93.1. Vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale dans le cadre de l'événement Avoir 20 ans en 2026. Toute la semaine, Aligre FM donne le micro à des jeunes engagés ou pas à l'occasion de ses 45 ans.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi, contre ton épaule, je repars à la lutte, contre les gravités qui nous mènent à la chute, pour faire du bruit encore, à réveiller les morts, pour redonner éclat à l'émeraude en toi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens, parce que tu n'en sais rien de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. À midi, quand viendra la crue, contre-courant toujours sont les contre-cultures. Au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique, l'heure est aux rêves utopiques pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. L'air de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des billets.
bilan et du chiffre. Sont nos amours toujours au bord du précipice? N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse. Comme un souffle à venir vient raviver les princes. Comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est là. Jeunesse, lève-toi. Contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi.
Les jeunes ont la parole sur Aligre FM. Damien 16 sur Aligre FM 93.1 à 9h32. Si vous nous rejoignez depuis ce matin, 9h, nous demandons quels droits, quels espoirs, quels leviers d'action pour les jeunes aujourd'hui, en compagnie d'Emmanuel Berthoud, représentante de Victoire Populaire, et de Cheryl Enjo, qui elle représente les jeunesses populaires. Une question à vous d'abord, peut-être Emmanuel Berthoud. On évoquait avant la pause musicale l'énorme travail de terrain et de rencontre que vous faites dans chacun de vos mouvements. Qu'est-ce qui remonte de la part de la jeunesse lors de ces rencontres comme sentiment, pas seulement vis-à-vis du politique, mais vis-à-vis de leur place dans la société, de leurs difficultés?
Moi, je pourrais davantage répondre par rapport à la population générale, parce que Victoire Populaire mène un travail de terrain auprès des jeunes, mais pas que. Même si là, et on y reviendra sûrement plus tard, les jeunes sont le public cible aussi de la campagne qu'on va mener dans le cadre des élections municipales, qu'on a commencé d'ailleurs. Mais donc, les remontées qu'on a du terrain, et donc qui ne sont pas uniquement propres aux jeunes, c'est déjà un grand besoin, une grande demande de justice fiscale, si je dois quand même parler de fond. Je pense que la campagne qui a été menée sur la taxe Zucman, par l'économiste Gabriel Zucman et Camille Etienne notamment, mais qui a été relayée de manière très large, ça a eu un écho vraiment, vraiment fort auprès de la population et des jeunes particulièrement, je pense. Donc il y a cette question-là. Il y a évidemment la question de la crise environnementale. Enfin, et ça, c'est depuis les marches climat, en fait, cette question de... Et puis là, récemment, avec la loi du plomb, enfin, il y a énormément de sujets et de mobilisations, la 69, enfin, régulièrement, en fait, il y a la population et les jeunes en particulier qui se mobilisent pour montrer, pour dénoncer des projets absurdes ou qui nous paraissent absurdes au regard des enjeux auxquels on est confronté et on sera confronté dans les dizaines d'années qui viennent. Et donc ça, c'est quelque chose qui remonte. La non-capacité du pouvoir politique à prendre en compte nos peurs aussi. Enfin, parce qu'il y a aussi ça derrière. Donc c'est le deuxième sujet qui remonte beaucoup. Et après, le dernier sujet, c'est évidemment la question du déni démocratique sur lequel on s'est un peu penché tout à l'heure. Finalement, à quoi ça sert de voter? Qui sont les gens pour lesquels on vote? Est-ce qu'ils nous ressemblent vraiment? Est-ce qu'ils nous représentent? Il y a eu un peu des voix qui se sont élevées aussi sur la question des privilèges, entre guillemets, des élus, même si en fait c'est une goutte d'eau dans l'océan des remarques qu'on pourrait faire par rapport à la crise démocratique. Mais voilà, donc c'est finalement les trois grands angles quand même qui nous sont remontés. Et c'est pour ça que outil Victoire Populaire, on dit qu'on lutte pour la justice sociale, la justice environnementale et le renouveau démocratique, parce que c'est vraiment ce qui remonte du terrain.
Cheryl Angel, même question du côté des jeunesses populaires. Qu'est-ce qui remonte le plus des consultations, des rencontres, des débats? Quelles inquiétudes, quelles envies?
Déjà, j'évoquerai la précarité étudiante notamment, mais pas que. Il y a aussi la précarité de l'emploi, les difficultés à trouver des alternances, le fait que même quand on essaye, c'est pas si simple que ça. J'évoquerai également les discriminations auxquelles la jeunesse peut faire face, que ce soit dans les études, dans la recherche d'un emploi, ou les logements, les violences policières qui font partie du quotidien de la jeunesse populaire, les contrôles aux faciès, mais pas que, encore une fois. Le déni de démocratie aussi, qui a dégoûté pas mal de jeunes et qui en a rebuté beaucoup. On observe quand même un élan de solidarité, parce que je trouve que dans les quartiers populaires, la solidarité, c'est fondamental. Partager à manger, faire des maraudes, s'échanger des trucs quand on peut. On est quand même dans le partage, mais ce qui a eu lieu pendant les législatives, ça a causé une fracture avec les quartiers populaires qui étaient déjà présentes avant. Et le constat, c'est que on a une jeunesse qui croit plus vraiment la politique, qui n'a pas forcément envie de donner du temps quand on voit ce que ça donne, mais qui reste engagée sur toutes les luttes de terrain.
Est-ce que se pose également la question du manque de représentation dans le personnel politique des jeunes et des jeunes issus des quartiers populaires ?
Bien sûr, déjà il y a très peu de jeunes. Les statistiques, elles sont très faibles. Je crois que c'est 4,6% de jeunes élus. Et au-delà de ça, c'est pas forcément des personnes qui nous ressemblent. C'est un peu des politicards, quoi, comme on les a toujours connus. Ils ont toujours la même tête, toujours la même façon de s'exprimer.
Y compris des gens, pardon, comme Ali Duara ou Carlos Martins Bilongo qu'on a vu entrer à l'Assemblée.
Oui, mais pour moi, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Il y a quelques élus qui sont d'ailleurs actifs sur le terrain dans leur commune, qui œuvrent pour la jeunesse populaire chez eux. Et c'est cool, mais c'est pas assez. Et surtout, c'est dans un seul parti qu'on retrouve ces profils-là, donc... C'est quoi, on est obligé de choisir le seul endroit où il y a des gens qui nous ressemblent, c'est pas forcément ce dont on a envie. Donc oui, il y a un manque de représentativité totale.
Et est-ce qu'on a 20 ans partout de la même façon ? Est-ce qu'on est aussi bien informé quand on grandit dans des quartiers en périphérie sur les possibilités d'engagement, d'action citoyenne, pour entrer par exemple au conseil municipal ?
Non. Je pense que dans ces zones-là, c'est encore autre chose, parce qu'il y a, c'est comme si une partie de la population avait la main mise sur ces milieux, notamment en France périphérique. Hein. Là, c'est le cas que je vais évoquer, mais on a souvent des élus qui sont là depuis très longtemps et qui se présentent chaque année et qui sont tout le temps élus. Et donc, je pense que c'est moins simple dans ces endroits-là de s'engager à l'échelle locale que dans les banlieues, où il peut y avoir du turnover, où il y a des listes citoyennes qui se montent, il y a des engagements associatifs, il y a des portes pour s'engager à l'échelle locale.
On peut citer quelques villes emblématiques de ces engagements à l'échelle locale ?
Moi, déjà j'évoquerai le 18e, je trouve que c'est un lieu, une terre de lutte vraiment que moi j'aime beaucoup. Il y a aussi dans le 93, en Seine-Saint-Denis, il y a Saint-Denis, avec le maire des banlieusards qui s'engage énormément aussi sur le terrain. On a pas mal de petites villes quand même où il y a de gros engagements.
Emmanuel Berthoud, vous faisiez un petit signe dubitatif, vous vouliez réagir ? Non, pas dubitatif.
Ah non, au contraire, c'était un lever de main d'approbation, parce que l'association dont je parlais tout à l'heure, c'est à la Goutte d'Or dans le 18e, et c'est vrai que c'est une terre de lutte depuis des décennies, au début sur le logement, là aujourd'hui, sur plein de sujets, et donc non, c'était de l'approbation, plus qu'autre chose.
Alors, il y a... un manifeste de Victoire Populaire. Vous avez cité des grands axes tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en évoquer d'autres ?
Alors, en effet, le manifeste est un travail en cours de rédaction aujourd'hui, parce que comme on l'a un peu esquissé depuis tout à l'heure, Victoire Populaire agit, on dit, en alliance et en conflictualité avec les partis politiques, parce que aujourd'hui, dans le système représentatif tel qu'il existe, qu'on le veuille ou non, les partis restent des acteurs déterminants pour obtenir des victoires électorales. Donc on est en lien, on a le travail de terrain, mais on est aussi en lien au niveau national avec les partis politiques. Donc on veut, à travers ce manifeste, clarifier aussi notre colonne vertébrale à nous, Victoire Populaire, Mouvement Citoyen, par rapport au parti. Donc ce manifeste qu'on espère voir publié dans les prochaines semaines clarifiera ça. Et après, on parlera en effet un peu du fond dont j'ai commencé à esquisser des directions tout à l'heure. Après, il y en a d'autres et certains sujets que Cheryl a évoqués. En fait, il y a la question toujours de la lutte contre les discriminations, de l'accès au travail, un travail qui paie, un travail digne. La question de la lutte contre les violences, qu'il s'agisse de violences policières, de violences au sein du couple, de violences faites aux enfants. Enfin voilà, tout ça, c'est des sujets qui remontent du terrain et qu'on veut porter, et qu'on veut porter de manière claire. Après, Victoire Populaire, son positionnement depuis l'an passé, c'était qu'on défendait le programme du nouveau Front Populaire. Bon, là se pose la question de quel sera le programme qui sera porté par les candidats de gauche dans les mois qui vont venir. Mais en tout cas, voilà, ce manifeste a à la fois vocation à clarifier notre positionnement vis-à-vis des partis, clarifier notre positionnement dans l'écosystème, comment on a envie d'agir avec nos partenaires pour voir la société qu'on veut voir advenir éclore, et enfin les idées qu'on veut porter, quoi.
Et comment vous voulez agir alors en lien avec les partis, mais et en toute indépendance?
Ah bah ça, il y a différents leviers. On est régulièrement en négociation aussi avec elles et eux quand ils veulent bien nous parler. On mène des campagnes d'interpellation. Je pense à ce qui a été fait notamment pendant les législatives, où en fait, avant qu'ils décident de signer le pacte du nouveau Front Populaire, il y avait tout le monde qui était en bas des endroits où ils se réunissaient, au siège des écologistes, pour leur dire coucou, la population, elle est bien contente hein, qu'il y ait des partis. C'est super que vous défendiez chacun votre ligne. Il y a toujours eu ça et c'est important, évidemment. Mais par contre là, il est l'heure de s'unir. Et donc nous, on est aussi là pour ça, pour dire on a 600 000 personnes sur notre base de données qui ont voté pour la primaire populaire. C'est quand même la principale base de données aujourd'hui en France, on a plus que les partis. Et ces gens-là, ils veulent la gauche au pouvoir. Comment vous allez vous mettre d'accord? Nous, on est là pour vous rappeler qu'il faut vous mettre d'accord. Donc c'est en partie ce qu'on fait vis-à-vis des partis politiques, quoi.
Cheryl Enjo, même démarche vis-à-vis des jeunes dans les quartiers populaires, à l'échelle locale?
Bah nous, nos revendications, on va dire, envers les partis à l'échelle locale, c'est soit les partis prennent en compte la réalité locale des jeunes et dans leur programme et dans leur façon de mener leur campagne, et là, on est d'accord pour soutenir, soit ils ne les prennent pas en compte et nous, on soutient plus des listes citoyennes. On n'est pas ni en mauvais terme ni en très bon terme avec les partis. Quand il faut parler avec eux, on parle avec eux. Mais s'il n'y a pas de réelle prise en compte et que c'est juste parler pour parler, parce que ça arrive aussi pas mal, parler pour rien faire, ça dépend. On peut travailler avec eux, mais ce n'est pas non plus notre objectif, quoi. Soit ils nous entendent, soit ils ne nous entendent pas.
Et en vous prémunissant aussi d'un risque d'instrumentalisation qui n'aboutirait qu'à récupérer des votes sans qu'il y ait ensuite de mise en pratique.
Mais c'est toujours comme ça, et c'est ce qui participe aussi énormément au taux d'abstentionnisme dans les quartiers, parce qu'on vient solliciter la jeunesse populaire. Oui, votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça. On fait comme si on allait prendre en compte les besoins de cette jeunesse. Et une fois au pouvoir, les gens oublient toutes leurs promesses. C'est toute la problématique, finalement, et c'est contre ça qu'on se bat, quoi.
Alors, on arrive au municipal. Nouvel enjeu de taille qui se profile. Comment chacune d'entre vous abordez-vous ce rendez-vous politique au sein des mouvements que vous représentez, Emmanuel Berthoux?
Alors oui, déjà pour le rappeler, donc les deux tours se passeront les 15 et 22 mars 2026. Je pense que c'est important de rappeler aussi que les inscriptions, faut bien que tout le monde, les personnes qui nous écoutent, vérifient leur bonne inscription sur les listes électorales d'ici le 4 février. C'est important, notamment les étudiants et étudiantes qui vivent loin de là où ils ont grandi. Vérifiez bien que vous êtes inscrits, inscrites là où vous vivez, notamment si ce sont des communes pivots, c'est-à-dire des communes où la victoire de la gauche peut se jouer à peu de voix, c'est vraiment important, donc vérifiez ça avant le 4 février. Mais oui, nous les municipales c'est un enjeu hyper important, parce qu'en fait les maires déjà ce sont les élus qui ont le plus, le taux de confiance le plus important de la part de la population, à la différence des élus nationaux. Donc c'est une figure en fait qui garde, enfin qui comment dire, dans cette tempête démocratique, ça reste quand même un phare, si je peux faire une métaphore
proximité.
Comme ça. Il y a une proximité, il y a une confiance qui demeure envers les élus municipaux, notamment parce qu'ils participent vraiment à la vie quotidienne des habitants. Donc c'est important. Une mairie peut changer la vie des habitants et des habitantes. Donc c'est pour ça que nous, Victoire Populaire, on veut se mobiliser de manière importante dans cette campagne. Et nous, notre stratégie là, Elle a deux axes. Le premier, c'est au niveau des cibles, viser les jeunes, parce que les jeunes comptent parmi les principaux abstentionnistes. Nous, pour nous, jeunes, c'est 18-35 ans, consensuel ou non. Donc ce sont les personnes qu'on va essayer de convaincre d'aller voter en premier lieu. Et ensuite, on va essayer de convaincre les jeunes qui vivent dans ces communes pivots-là. Et notre but, c'est vraiment de gagner 100 000 voix dans une cinquantaine de communes. Donc on décline cette stratégie-là au niveau national grâce à nos groupes locaux, mais aussi grâce aux campagnes de phoning. Et on a notamment Loumire Laprès, qui est une activiste rurale, qui se mobilise pas mal chez nous pour développer ça avec sa Village Academy, accompagner les listes, voilà, aller former les gens sur le terrain. Donc oui, les municipales, c'est vraiment un axe important pour nous dans les mois et les semaines surtout qui viennent.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On peut citer quelques communes parmi celles qui vous investissez?
Ah, on est vraiment à beaucoup d'endroits. Hein. Oui. Si vous voulez parler des groupes locaux, là, on a des groupes locaux qui se montent à différents endroits du territoire. Je ne sais pas si je peux en citer certains plus que d'autres. C'est peut-être pas... C'est
judicieux.
Peut-être pas.
Alors, je vous demande aussi autre chose. Il y a le vote, l'incitation à voter. Et est-ce qu'il y a aussi une incitation à se présenter au municipal? En France, il y a seulement environ 4,7% des maires qui ont moins de 35 ans. Est-ce que ça vous semble important aussi pour peser dans cette crise démocratique? Et à l'échelle locale, vous le rappeliez, c'est important parce qu'il y a vraiment une confiance vis-à-vis des maires, de s'engager politiquement et de se présenter aux élections.
Alors nous, c'est pas un travail qu'on mène chez Victoire Populaire. Après, il peut y avoir des personnes engagées dans nos groupes locaux ou même des sympathisants, des militants, militantes de chez VP qui décident de se présenter, Victoire Populaire, pardon, qui décident de se présenter sur une liste. C'est possible. Après, c'est pas quelque chose qu'on encourage en tant que mouvement. Par contre, oui, évidemment qu'on serait ravis que les visages se renouvellent et que de plus en plus de jeunes décident de s'engager sur des listes, qu'elles soient de gauche ou citoyenne, comme le rappelait Cheryl.
C'est précisément pour ça, oui, que je posais la question, parce que parmi les doléances, il y a quand même l'inquiétude face à un manque de renouvellement du personnel politique. Même question, Cheryl Enjo, dans le travail que vous menez, est-ce que il y a aussi une sensibilisation à cette forme d'engagement-là, au-delà des formes d'engagement bien réelles dont on a parlé sur le terrain et notamment dans les quartiers populaires, qui sont par définition des espaces politiques?
Nous, pour les municipales, on a une stratégie qui est assez bien définie. On commence d'abord par sensibiliser à l'inscription sur les listes électorales, le vote, et ensuite on donne des formations pour comprendre un peu l'appareil politique, comment se passent des municipales, quel est le rôle d'un maire, quel est le rôle des élus, qu'est-ce qui relève de la compétence de la mairie, de la région, du département. En fait, donner toutes les connaissances de base pour savoir à qui s'adresser, qui s'occupe de quoi et quels sont nos interlocuteurs. On n'a pas pour but de pousser les jeunes à s'engager en politique pour des raisons qui sont très clair, c'est que déjà quand on est issu de la jeunesse populaire, on a une espèce de pression quand on s'engage en politique et on vit quand même une espèce de violence systémique, même avec les autres politiciens qui sont expérimentés et qui jouent à ce jeu depuis très longtemps. Donc on arrive quand même dans un monde qui est assez violent. Déjà, on ne veut pas pousser nos jeunes dans ce sens-là. Et ensuite, il y a aussi la pression de se dire, si ils arrivent au pouvoir, quel que soit le pouvoir, élu, maire ou quoi, en fait, la pression qu'on va mettre sur ces jeunes-là, ça ne va pas être la même qu'on mettra sur les autres. Donc, on va les attendre au tournant. Et quand un jeune issu de quartier populaire fait une erreur, c'est pas pareil que les autres. Et ça peut être très violent et ça peut gâcher tout simplement toute une carrière politique qui n'a pas encore commencé. Donc, on ne les pousse pas dans ce sens-là. On leur donne les armes, on leur donne les connaissances nécessaires. On les accompagne s'ils ont envie de le faire. Mais notre campagne n'a pas du tout pour but de leur dire « inscrivez-vous ». Devenez élus, etc. Parce qu'il y a une pression derrière et soit ils sont prêts à la porter et dans ce cas-là, on les encourage, on les soutient et on les accompagne. Soit ils ne sont pas prêts et c'est OK. Ils peuvent toujours s'engager autrement. On leur donne aussi les outils. S'il y a un problème avec leur logement, s'ils veulent l'ouverture d'un city-stade, vers qui se tourner, comment on peut mener des luttes aussi à l'échelle locale, même si on n'est pas dans la municipalité. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Après, ils en font ce qu'ils veulent.
Alors, l'enjeu, c'est, on le disait en début d'émission, hein, c'est aussi de lutter contre les idées du Rassemblement national en pointant des sujets de société, des sujets liés à plus de justice sociale, plus de justice fiscale, c'est-à-dire les vraies préoccupations de la jeunesse, mais et au-delà de toutes les générations d'ailleurs, vous l'avez rappelé, Emmanuel Berthoud. Mais ce combat contre les idées du RN, j'imagine qu'il passe aussi par une réflexion sur les discriminations, le racisme, la violence. Emmanuel Berthoud, comment ça se passe ?
Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui avec la modération un petit peu du discours qui a été engagé par Marine Le Pen depuis quelques années, en fait. C'est qu'il y a une forme de déni à la fois du passé de ce parti-là et de son caractère profondément raciste et du danger des politiques publiques qui défendent en termes d'égalité entre les citoyennes et les citoyens. Après, nous, en fait, je pense que c'est la difficulté pour pas mal de mouvements de gauche. C'est est-ce qu'on axe notre discours et notre narratif sur la lutte contre le RN, et donc là, on lutte contre, ou est-ce qu'on axe notre discours sur le qu'est-ce que c'est que la société qu'on veut voir advenir ? Et donc là, oui, on veut une société. Bon, après, faut pas être idéaliste. Hein. Enfin, c'est ça aussi. Comment on fait pour avoir un discours le plus enchanteur de la politique possible, tout en montrant aussi qu'on a des barrières. Et là-dedans, évidemment, que la lutte contre toutes les formes de discrimination qui existent, et notamment contre le racisme, qui est profondément ancré à différents niveaux dans cette société. On parlait de ce qui peut se faire en lien, par exemple, avec la police. Mais en fait, il y a aussi l'accès au logement. Ça joue dans plein de secteurs, au travail. Donc voilà. En tout cas, nous, on essaye de toujours trouver cet équilibre entre le lutter contre et le présenter le pour. Quelle est cette société qu'on veut voir advenir, quoi.
Même question, Cheryl Enjo.
Bah, c'est vrai que nous, on a commencé, on est né vraiment dans la lutte contre l'extrême droite. Maintenant, c'est pas ce qu'on a envie de représenter aujourd'hui. Je pense que le combat contre l'extrême droite, moi, je dirais même pas le RN, parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite englobe plusieurs partis, plusieurs figures, même des médias, qui favorisent la montée de ces idées. Et donc, nous, ce qu'on tente de faire, c'est de... Pas de dire c'est des gros méchants, etc., parce que ça sert à rien, mais de lutter contre les idées avec des idées. Je pense qu'il faut aussi mener la lutte de façon un peu diplomatique. On peut crier, on peut être révolté, mais je pense qu'on ne pourra pas changer les choses tant qu'on ne sera pas capable de s'asseoir avec ces personnes et d'avoir des discussions réelles avec des statistiques réelles, avec une vision de nos réalités. Il faut qu'on soit en capacité d'échanger là-dessus. J'aurais jamais pensé dire ça. Si je ne m'étais pas engagée en politique, je pense que je ne verrais pas les choses comme ça. Mais... il faut qu'on combatte les idées parce que, pour moi, ce qui représente le plus un danger pour les personnes racisées, les femmes, la violence de toutes ces idées, c'est l'électorat de l'extrême droite. Donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi en capacité d'aller vers cet électorat-là et d'échanger avec eux.
Oui, c'était un peu le sens de ma question, parce que la difficulté dans des campagnes reculées, par exemple, c'est que le RN peut apparaître comme un mouvement qui milite pour tout ce que vous avez énoncé, là, plus de justice fiscale, plus de justice sociale, le rétablissement du pouvoir d'achat, etc. Et en même temps, contre l'ennemi numéro un, que serait le jeune issu de l'immigration ou le jeune mineur isolé, migrant, ou l'autre en général. Et donc, comment fait-on, là il est 9h54, donc je vais vous demander une réponse brève, pour aller sur ce terrain-là et essayer effectivement d'éclairer les consciences? Emmanuel Berthou.
Moi, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Cheryl. En fait, on se rend compte que le vote RN, finalement, le racisme, c'est un vernis. Hein. Ce qu'il y a derrière, c'est aussi beaucoup une misère sociale, un isolement, un manque de services publics. Enfin, en fait, on n'arrive pas à voter ou à être convaincu par les idées d'extrême droite uniquement parce qu'on est profondément raciste. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on croit dans le pouvoir de la conversation et qu'on commence en parlant aux gens en disant « Demain, si vous arriviez au pouvoir, qu'est-ce que vous voudriez voir changer ?» Et en fait, souvent, on se rend compte que les demandes des gens rejoignent plus de justice sociale, plus de justice environnementale et des bonnes conditions de vie. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi faire le pont avec ses électeurs et ses électrices.
Donc discuter et débattre sur les idées. Alors, il est 9h55, l'émission arrive bientôt à son terme. J'ai envie de vous demander à chacune d'entre vous, et la réponse sera brève, que serait une victoire populaire pour vous dans les années qui viennent? Emmanuel Berthou?
Déjà, beaucoup de mairies qui passent ou qui restent à gauche. Ça serait le premier point à court terme. Et après, on espère un mouvement citoyen massif qui nous permette de contrer un peu les idées d'extrême droite. Et le must, ça serait évidemment la présidentielle. Mais en tout cas, donner de l'écho à nos voix, ça serait un bon début.
Cheryl Anjou?
Moi, je dirais changer de constitution. Ce serait une grosse victoire. Plus de jeunesse au pouvoir, plus de justice sociale, moins de précarité, plus de pouvoir d'achat, une lutte réelle contre les discriminations. Tout ça, ça représenterait une bonne victoire déjà, pour commencer.
Et enfin, un conseil à des jeunes qui nous écoutent, j'espère, et qui hésitent à s'engager, qui ne croient plus à l'engagement. Emmanuel Berthou.
Moi, je dirais déjà de trouver, au moins commencer par une thématique dans laquelle on croit et aller militer avec des copains, copines au local. C'est déjà croire, enfin redécouvrir le pouvoir du collectif. Et après, on verra plus tard. Pour le reste, ça viendra tout seul.
Cheryl Anjou?
Ouais, déjà, moi, je dirais la même chose, le collectif, parce qu'on ne peut pas lutter seul. Et ne pas perdre espoir qu'on construit un immeuble, une pierre par une pierre. Donc, si on met tous notre pierre à l'édifice, on peut peut-être construire quelque chose de beau, je l'espère.
Merci, merci à toutes les deux d'être passées par ce micro ce matin dans le cadre de notre semaine Avoir 20 ans en 2026. On retrouvera vos associations au cours de 3 émissions spéciales proposées par Fréquence Droit. La première est le 28 janvier et elle mettra à l'honneur Victoire Populaire. L'émission sera construite en partenariat avec Victoire Populaire. Vous l'aurez compris, avoir 20 ans en 2006, c'est pas seulement un âge, c'est une position dans la société entre précarité, urgence écologique, envie d'agir. Une chose ressort, la jeunesse ne manque ni d'idées ni d'engagement et il faudra, on l'espère, compter avec elle dans les semaines, les mois et les années à venir. Merci à Enrico Mastro Giovanni et Philippe Donnefort qui étaient aujourd'hui aux commandes en régie. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et dans quelques instants, nous vous proposons de réécouter ou d'écouter une émission consacrée à Dieu dans la langue française. Est-il jeune ou vieux? On ne sait pas. En tout cas, l'émission est assez drôle et érudite en même temps avec le lexicologue Jean Pruvot. À 11h45, on continue à donner la parole aux jeunes. Pas de scène de la semaine, donc, mais Éric Dauter a tendu son micro à un jeune comédien, homme, citoyen, urbain, qui nous parle de ses doutes, de ses convictions. 9h58 sur Aligre FM 93.1, on se quitte. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez à l'écoute de nos programmes. L'émission sera bientôt podcastable sur le site de la radio aligrefm.org.
There's maybe a way I can tell you.
'Cause with every day, things continue.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.